tractor.
Boom,
tractor.
Boom,
tractor. Boom,
boom,
tractor.
Bonjour, chers auditeurs. Je m'appelle Soulève. Je suis une élève de classe 5e 2 du collège Berthelot de Toulouse. Notre collège est situé dans le quartier Saint-Michel, rue Achille-Viadieu, à côté du lycée Berthelot, et tout proche au conseil régional. Notre classe a 13 filles et 12 garçons, et divisée en 3 groupes. Notre groupe étudie le patrimoine du quartier Empalo. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter une émission exclusive. Vous faire découvrir le quartier Empalo à travers des témoignages d'habitants. Vous recevrez Madame Gilbert, Liliane et Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, depuis quand habitez-vous à Empalo ?
Eh bien, j'habite à Empalo depuis 50 ans déjà. Voilà, depuis 50 ans, j'habite à Empalo.
Ouais, je vais vous passer ma collègue Mélie.
Pourquoi vous êtes-vous installée à Empalo ?
Alors, très bonne question d'une part. Je me suis installé à Empalo pour la raison que j'avais mon travail qui était au bout du pont Pierre de Coubertin. Ce qui fait qu'avec mon Solex, j'allais au travail et je n'avais pas besoin de voiture et j'étais très près de mon travail. Voilà. C'était une des raisons principales, la distance de mon travail.
Vous faisiez quoi comme travail ?
Alors, comme travail, eh bien, j'ai travaillé dans les cuisines. J'estimais qu'il fallait que je m'assure le repas le soir et le midi, ce qui fait que je me suis lancé dans la cuisine pour travailler et donc apprendre à faire des plats d'hors-d'œuvre, savoir servir dans la salle de restaurant, etc. Enfin, c'était mon emploi. Je travaillais dans les cuisines.
D'accord. Et vous, Gilbert, depuis quand vivez-vous à Empalo ?
Je suis venue parce que j'étais rapatriée d'Algérie, donc en 1962.
Donc, qu'est-ce qui caractérisait Empalo à l'époque ?
À l'époque, Empalo, ça ne me changeait pas beaucoup, d'abord pour le climat. En plus, pour la population. Je retrouvais la même population qu'il y avait dans mon pays, en Algérie. Et voilà, et j'étais heureuse d'être là.
D'accord.
Autrefois, est-ce que les gens s'entendaient bien à Empalo ?
Comment ?
Est-ce qu'ils s'entendaient bien, les gens à Empalo ?
Oui, mieux que mais, je ne sais pas. Écoute, ça formait des clans quand même. Hein. Les Européens fréquentaient les Européens.
Oui.
Du moins les chrétiens ou les espagnols, les italiens et les arabes vivaient entre eux. Mais ils aimaient nous fréquenter quelquefois.
Okay.
Par moment, par période, ils nous fréquentaient, ils nous invitaient un peu chez eux. Très peu, mais maintenant pas du tout.
Okay.
Pas du tout. Les chrétiens ne se fréquentent plus et les musulmans se fréquentent entre eux. Ils ne s'introduisent, ils ne se mélangent pas avec nous. Ouais. Ce que nous voudrions, nous. Avoir le dialogue avec eux, nous mélanger. Mais eux, ils sont restés avec leurs coutumes d'avant. Je te passe les plats, je viens aux fêtes traditionnelles, entre eux. Mais ils nous éloignent d'eux. Nous sommes éloignés de la population arabe.
Et vous, Liliane, y avait-il des marchés avant ?
Moi, je n'ai pas trop connu le marché. Je suis arrivée en 64. Sur Empalo, il n'y avait pas grand-chose à part le supermarché, quelques magasins. Donc, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, donc je ne sortais pas trop et tout ça. Je ne suis mise à sortir vraiment qu'une fois que j'ai élevé mes enfants. Alors, ça fait pas très longtemps que je suis dans une association qui s'appelle Azur, que je ne sais pas si vous connaissez. Elle est rue avenue Jean Moulin. Elle s'occupe de beaucoup de choses sur Empalo. Et voilà, c'est surtout ça qui m'a poussé à pouvoir vivre autre chose et rencontrer des gens. Comme dit madame, c'est très difficile quand on est, disons, chrétien. C'est pas le mot moi, que je dirais, mais... Il y a une certaine différence, et moi c'est cette différence que j'aimerais aplanir.
Ah oui.
Entre musulmans, oui. Chrétiens, juifs ou autres religions. On est tous des humains, on est tous pour vivre ensemble, pas pour vivre chacun de son côté. C'est pour ça que quand on fait des repas, nous, Azur, c'est surtout pour tout le monde. Pour tout le monde.
D'accord.
Il n'y a pas de différence. D'accord. Voilà.
Est-ce que c'était dangereux?
De quoi?
Avant le quartier, hein, Pablo. Il était dangereux?
Non.
Il y avait des actes de racisme?
Dangereux, non. Pas vraiment.
Okay.
Tu sais, moi, quand je suis arrivée, il y avait l'armée. Il y avait la maison des associations, ouais. C'était l'armée qu'il y avait. Alors, c'était même pas les musulmans, ni rien de tout ça. C'était les blousons noirs qu'on avait. Ils se battaient à coups de chaîne avec les soldats. Et après, il y a eu la différence de voilà. Qui est toujours d'ailleurs, hein, qu'on n'arrive pas. Il y a toujours des gens qui font des clans, qui c'est pas bon. Ouais. Et nous, on essaye de rassembler.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il y avait-il des maisons ou des immeubles, Pierre?
Des maisons individuelles, oui. Il y en a toujours, d'ailleurs. Des maisons, bien sûr, il y en avait. Non. Mais disons que c'était les immeubles que l'on avait.
Je peux te répondre.
Oui.
Que mon mari est né ici, à Toulouse, dans le quartier d'Ampalo, près de la Rocade, puisque sa maison, elle y est toujours. Il n'y avait que des maisons. Sur tout le quartier, il n'y avait que des maisons. Moi, j'ai des photos où on voit les petites maisons, là où vous avez peut-être le centre social maintenant, vous avez là où habite Pierrot.
L'avenue Jean Moulin.
Sur l'avenue Jean Moulin, c'était que des petites maisons. Mmh. Et après, ça allait en descendant.
Oui.
Donc, c'était des baraques qu'il y avait. Ça touchait, ils étaient dans l'eau les trois quarts du temps. Souvent, ils étaient inondés. C'est pour ça qu'ils ont construit la digue, tout ça, et qu'ils ont reculé. La rue Jean Lebas, la petite rue qui est au fond, là, où j'habite moi, ça a été rehaussé. Ils ont comblé. Ils ont fait une rue. Et moi, j'ai mon jardin, il est à hauteur de la Garonne.
Voilà.
Moi j'ai mon jardin, quand je vais au garage, je descends et mon jardin il est à la limite de la Garonne. C'est-à-dire que s'il y a des inondations, on peut prendre l'eau. Voilà.
Y avait-il de la pollution
Comment ?
Y avait-il plus de pollution que maintenant
Disons que moi je n'y pense pas, je ne la ressens pas. Vous la ressentez vous, les enfants? Vous la ressentez?
Quel
on
genre
en parle beaucoup. On en parle beaucoup, on nous fait peur même, mais moi je n'y pense pas. Rien n'est changé pour notre vie. Je crois que dans vos maisons c'est pareil, pour vos parents, pour vous-même. On en parle, mais on ne le ressent pas encore.
C'est-à-dire que c'est les enfants peut-être qui le ressentiront sur la santé.
Oui, mais nous on ne le ressent pas.
Dans quelques années.
Les enfants non plus, à l'heure actuelle, ne le ressentent pas.
Y avait-il des bruits de fumée ou des trucs
On avait déjà deux usines, une qui a sauté d'ailleurs.
AZF.
Donc celle-là, ça a été.
Voilà,
ça a eu. Il y a eu déjà. Sur AZF, il y a eu trois explosions à peu près. La dernière a été la plus grave.
Ah oui.
Bon, en plus, il y a une autre usine qui est toujours. Qui est très dangereuse. Parce qu'elle fabrique le carburant d'Ariane. Et elle a des produits hyper dangereux. Quand moi j'ai été la visiter, cette usine, avec un masque.
Oui.
Avec un masque. Vous passez sur le bord de la Garonne, la route de la Croix-Falgarde, l'usine elle est juste à droite.
D'accord.
Voilà. C'est ce grand, grand, grand truc que vous voyez. Cheminée blanche. Et là, ce qui se passe là-dedans, c'est.
Les ouvriers qui travaillent là-dedans travaillent toute la journée avec le masque.
Oui.
Hein.
Moi,
il n'y en a aucun sans masque.
J'ai ma nièce qui était. Qui n'a pas travaillé dans cette usine, mais à AZF. Ils ont ressenti.
Oui.
Tout ça, on a eu très peur parce qu'il y avait quand même un produit hyper dangereux.
Oui.
Et que si ça s'était mélangé, ça aurait été très très grave. On mourrait tous, je crois. On n'existait plus, je crois. Oui, je sais que AZF nous a beaucoup marqué.
I don't understand what's going on here.
It's time to make my move.
We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program.
is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gets you trouble, just do that on the double. And you don't get to trouble your brain. Cause the way it moves, trouble down the drain. Drain.
Maintenant, nous allons parler de loisirs. Madame Gilbert, quelle musique écoutez-vous et où? Quelle musique écoutez-vous et où?
J'aime beaucoup les musiques anciennes, puisque oui, mais merci beaucoup de m'avoir parlé fort. Oui, c'est ça. J'aime les musiques anciennes. Les musiques de maintenant, non. J'aime toujours mais la musique d'avant. Les tangos, les vats, ou bien écouter. J'aime beaucoup le théâtre. Voilà. D'accord. Le théâtre.
Et quand vous étiez jeune?
Oui. Et même maintenant, j'aime le théâtre, j'aime la musique, mais la musique d'avant. Voilà.
C'était quel style de musique avant?
Comment?
C'était quel style de musique avant?
Eh bien, avant, c'était le tango, la java. Puis après, on a eu les postes de télé un peu tard. Et il n'y avait pas de la musique partout. Mais c'était les musiques d'avant, c'était le tango, la valse, le théâtre. Oui, ça a été toujours le théâtre comique, le théâtre amusant, le théâtre qui fait rire, le théâtre populaire.
Y avait-il des terrains de sport?
Comment?
Y avait-il des terrains de sport?
Ah oui, il y en a eu toujours. C'est la première chose qu'on trouve dans un quartier, l'école et le sport. Moi, je suis restée en Palau parce que l'école primaire n'était pas loin. Donc, je ne voulais pas partir ailleurs. Et les salles de sport aussi, il y a eu toujours. Il y a toujours un terrain vague et les enfants trouvent toujours à faire du sport. Ils n'ont pas besoin de barrières. On n'avait pas besoin de barrières puisque le terrain est vague. Eh bien, les enfants jouent. Au ballon, ou mettre une corde et jouer à la corde et jouer. Hein? Vous n'avez pas besoin de terrain de sport pour aller au sport. Maintenant, oui, mais avant, on n'en avait pas besoin. On avait des terrains vagues et on jouait là. C'était le sport.
D'accord.
Les enfants jouaient là.
D'accord.
Mais les enfants jouaient beaucoup ensemble.
Oui, d'accord.
Ils s'aimaient beaucoup et les enfants cohabitaient très bien. À votre âge, mes petits-enfants ont été heureux ici, à Palau. Parce que tous les enfants jouaient ensemble. On ne disait pas, on se mélangeait bien avant, les enfants se mélangeaient bien. Ils se mélangeaient à l'école, ils se mélangeaient dehors. Dès qu'ils arrivaient de l'école, dehors, il fait beau. Donc ils jouaient dehors. Et ils partageaient les jouets. Et on ne disait pas, l'enfant, toi tu as une voiture, lui n'en a pas, toi tu as une poupée, il ne la prête pas. Tous les jouets étaient pour tout le monde. Autrement, ils ne pouvaient pas sortir jouer.
Oui, ils partageaient.
Ils étaient que dedans. Alors pour jouer, eh ben, tout le monde jouait ensemble et tout le monde était d'accord ensemble. Les enfants s'aimaient bien. Je ne sais pas maintenant si vous vous aimez pareil.
Mais vous, par exemple...
Ils partageaient tout. Leur goûter, le marchand de crème est passé. Il y avait une petite fille qui avait... Moi, je donnais, mettons, les sous pour la petite. Eh bien, il y avait l'autre petite qui n'en avait pas. Elle suçait le même bâton de crème. Le lendemain, c'était elle qui suçait le bâton de crème de la copine. On voulait que les enfants jouent ensemble. Ils avaient cet esprit-là. Que les enfants soient moins ensemble. Et... Moi, je me rappelle, ma petite fille avec sa copine, eh bien, on partage tout.
D'accord, merci.
Les devoirs aussi. Le soir, on venait faire les devoirs à la maison.
Et vous, à votre âge... Enfin, je vais être personne parce que vous parlez beaucoup. Non, mais on s'interroge beaucoup.
Comment
Liliane, vous, à notre âge, 12 ans, quelles étaient vos distractions?
D'abord, je n'étais pas à Toulouse. Déjà, j'étais à Bordeaux et j'étais pensionnaire.
Ah, oui, d'accord.
Alors, j'avais une autre vie que les enfants qui habitent chez leurs parents et tout ça. La vie de pension, c'est très, très différent. Mais je ne me suis pas ennuyée du tout parce que j'ai fait 400 coups.
D'accord.
Je me suis amusée de toutes les façons, avec les religieuses, avec tout le monde, les professeurs, tout. Oui, j'étais, oui, j'étais quelqu'un de... J'ai souvent puni.
Ah, d'accord. Monsieur Pierre,
oui,
quand vous étiez jeune à l'école, vous deviez porter des tenues.
Donc, très bonne question. Nous avions, de mon temps, eh bien, on portait des tabliers. Disons que le fait de porter les tabliers ne permettait de voir que c'était comme un peu l'uniforme, si l'on peut dire.
Tout
un
le
petit
monde
uniforme de l'école. Il y a des écoles qui avaient des tabliers bleus, d'autres blancs, ou des, ça dépend des classes et tout ça. Et franchement, le fait de voir les élèves avec un tablier, il n'y avait pas la distinction, la pensée de dire, tiens, où c'est que tu as acheté ça, toi? Elle est belle, ta veste, tu me la prêteras ce soir. Je m'en veux, voilà. Donc, le fait d'avoir les tabliers, c'était une couleur uniforme, un esprit uniforme.
D'accord. Oui. Ça aurait été pas de jalousie, mais de vestimentaire.
C'était comme ça à notre époque. On portait les tabliers, oui.
Fréquentiez-vous le collège Berthelot? Sinon, lequel?
Moi, non, je n'y vais. Je m'appelle Berthelot pour discuter avec, avec vous. Je suis venu à Berthelot 2, 3, 4 fois. Mais c'est tout, quoi. Mais je n'ai jamais été à Berthelot pour des études.
Et donc, vous étiez au collège Berthelot à...
Non. Je n'ai pas connu le collège, mais par mes petits-enfants. Ah. Les enfants venaient avec tout le quartier faire les devoirs à la maison. Même les professeurs leur disaient, allez chez Gilberte, elle va vous faire les maths, elle va vous faire les dictées. Et comme j'aimais beaucoup les enfants, n'importe quel enfant avait la porte ouverte.
Comment ça se passait au collège, professeur gentil et punition? Que vous étiez quelqu'un de sage au collège?
Moi, je n'étais pas des plus polissons, donc il reste que j'étais quand même bien.
Et vous, Liliane?
Alors moi, j'étais pas ici, mais Berthelot, je connais bien, parce que mes enfants ont tous été à Berthelot. Ils ont tous fait leurs études à Berthelot et au lycée. Et après, ils sont partis en université. Mais moi, j'ai connu beaucoup de professeurs à Berthelot, parce que j'ai été parent d'élèves. Donc j'ai souvent été en réunion avec les professeurs et ça se passait très bien. Moi, j'avais un gamin qui était assez polisson et qui a fallu... mettre au pas un petit peu, et puis bon, ça s'est bien passé, parce que voilà, il avait les parents derrière et les professeurs, donc ça s'est bien passé.
Il avait des punitions, les professeurs étaient gentils?
Il n'y avait pas de punition à Berthelot à proprement parler. Il les retenait, l'étude, en disant, voilà, vous allez faire vos devoirs, comme ça vous rentrez, vous êtes tranquille, voilà. Moi, je sais que le troisième de mes enfants, il fallait faire comme ça. Tu fais les devoirs à Berthelot, une fois que tu as fini, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux.
D'accord.
Tu t'amuses. Les autres étaient beaucoup plus tranquilles, ils faisaient les devoirs à la maison et tout ça. J'en avais un qui était vraiment polisson.
Vous trouviez facile le travail avant?
Le travail, je le trouvais pas si facile que ça, parce que le travail, il a deux côtés. Le côté difficile et le côté facile. Alors, des fois, je prenais le côté facile, mais ça n'allait pas non plus. Alors, j'essayais de corriger celui qui n'allait pas.
Et vous le trouvez facilement, le travail?
Le travail avec la volonté, oui. Ah oui, avec la volonté, j'arrivais à trouver le travail facilement. C'était d'ailleurs la volonté qui me permettait d'avancer, de travailler comme tout le monde.
Et c'était facile de trouver du travail sur un palot?
Alors, du travail sur un palot, il y en a. Disons que ce sont des sociétés qui sont actuellement sur un palot, qui font des grands travaux, et donc c'est la jeunesse qui est au chômage qui est prioritaire pour avoir un emploi dans les travaux de l'avenue Jean Moulin, tout en palot.
Et vous, Gilberte, vous trouviez facilement du travail?
Moi, je n'ai pas travaillé, parce qu'il y a eu la guerre en Algérie, il y a eu la guerre 44, il y a eu la guerre... Donc, je n'ai pas travaillé, j'étais encore en classe, j'étais en troisième année, et puis ma mère m'a dit de me marier. Comme ça, ça m'aurait empêché d'avoir les Allemands qui arrivaient en Algérie, qui auraient pu nous prendre, nous déporter, voilà. Alors elle m'a dit, tu épouseras une Italienne, et comme ça, tu seras protégée. Voilà. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les filles, vous êtes libres de vous exprimer, d'aimer, de parler avec vos parents. Ce qu'il faut, vous, la jeunesse, c'est parler beaucoup avec vos parents. Moi, je racontais tout à ma mère, à mon père. J'étais très naïve. À votre âge, j'étais très naïve. J'étais en troisième année, je faisais des problèmes de chimie et tout ça, mais le reste, j'étais naïve, je croyais tout ce qu'on me disait.
Troisième année, c'est quelle classe, enfin quel âge, on va dire plutôt.
Comment ?
Troisième année.
Oui, jusqu'en troisième année. J'étais à 14 ans, j'étais avec des filles de 18 ans.
D'accord.
Vous étiez jeune, c'était quoi votre transport ? Bus, métro, madame ?
Moi, j'étais pensionnaire, donc je ne prenais ni bus ni métro. J'étais pensionnaire.
Dans le quartier Ampalo.
Ah, Ampalo ? Il y avait le bus ? Il y avait le 26, je crois.
Oui, le 26. Hein, oui,
le 26.
Oui, le 26.
Il y avait
oui.
L'arrêt au fond.
Il y a eu le 26, le 38, et puis oui, d'autres voilà. Cars. Mmh. Et puis, ce qui a été installé, qui a été le bienvenu, c'est surtout le métro.
Oui, le métro, il s'est arrêté un peu trop vite. Ils auraient dû le mettre jusqu'au fond.
Enfin, bon, ils ont quand même fait les choses bien.
Et pour la première fois que vous avez vu Ampalo, c'était quoi votre impression ?
La première fois, ben, disons qu'en 58-59, quand j'ai vu la première fois Ampalo, que j'avais été invité pour un anniversaire, eh bien, il y avait très peu de maisons. Très peu, il n'y avait que des petites maisons. Et commencé en 58-59, la construction des buildings de 12 étages, 15 étages. Voilà, donc j'ai vu grandir les buildings, mais moi, je n'ai pas grandi.
Et maintenant, on les démolit. C'est une,
ouais,
c'est une bonne chose. Démolis. C'est une bonne chose. Parce que vraiment, ça, c'était pas. C'était des cages à lapins.
Et quelles étaient les entreprises en Palo avant ?
Des entreprises ? Ouais. Il n'y en avait pas, à part l'usine AZF et celle qui est derrière, là, il n'y avait rien.
Rue Saint-Roch, à Saint-Roch, il y en avait.
Il y avait la briqueterie, il y avait, mais tout ça, ça a fermé très rapidement. Moi, je ne l'ai pas connu, ça.
Et la poudrerie ?
Comment ?
La poudrerie.
La poudrerie, c'était pendant la guerre de 14, hein, j'étais pas née.
Ah oui.
Hein. Donc c'était pendant la guerre de 14.
Oui.
L'Onia, tout ça, c'était pendant la guerre de 14. Là, ce qui s'est mis derrière après,
quoi,
c'est à peu près à la même époque. Et nous, on l'a connu, mon beau-père, moi, a connu. Lui, il est parti en Chine, parce qu'il a quitté la boîte pendant un temps. Il est parti en Indochine. Après, il est revenu. Il a repris le boulot à la poudrerie et tout ça. Et ses frères étaient là. Mais bon, c'était pas une vie facile. Parce qu'en plus, il touchait des produits très volatiles, très dangereux. Il a été gravement brûlé. Donc, il a été obligé de partir. Il en a attrapé le diabète. On ne savait pas ce que c'était à l'époque. Hein. Et il en est mort. Il est mort à 52 ans. Alors vous voyez que moi, je suis diabétique et j'ai vécu un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas mon père, lui. Non, mais c'est bon, les usines, c'est ça.
Y avait-il le cinéma en Palo avant ?
Ah oui, il y avait un cinéma.
Pas en Palo.
Pas en Palo même, disons.
C'est sur,
proche.
En face
de la Sainte-Agne.
À Saint-Agne.
À Saint-Agne, c'était, oui.
Vous voyez la grande avenue.
Voilà, à l'époque, il y avait Zorro qui était souvent présent.
Ah oui.
D'accord.
Oui, il y avait un cinéma.
Et il y avait des balles ?
Alors, des balles, oui, il y en a eu pas mal de balles. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'à un certain moment, ça s'est arrêté. Il y avait trop de
bagarres
entre militaires, parce qu'il y avait une caserne donc sur un palo aussi. Mmh. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, vu les bagarres qu'il y avait et les problèmes graves que ça commençait à monter trop, eh bien la mairie a fait passer un article d'interruption de ces balles, tout ça. Et ça n'a jamais été remis en service, cette idée-là. C'est dommage.
C'est surtout qu'il y avait des fêtes en palo et... Oui. Ça faisait des bagarres à chaque fois, quoi. Chaque fois qu'il y avait une fête, on a eu souvent, on avait les auto-tampons, les manèges pour enfants et tout ça. Puis c'est parti parce qu'il y a trop de bagarres. Et à un moment donné, il y a un jeune qui habitait derrière. Je crois qu'il habite, je ne sais pas s'il y habite encore. Il avait un manège qu'il avait mis sur la place. Et je me souviens, moi, quand j'avais des enfants petits, il me disait, allez, laisse-moi les enfants. Tu vas faire les courses, quand tu reviens, tu les reprends. Je reviens, je te paye, non, c'est bon. Hop, le gosse, il avait fait 20 tours de manège, ça avait payé 3. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens le réclament, ce manège.
Madame Gilbert ?
Oui ?
Gilberte, y avait-il les fêtes du quartier ?
Les fêtes du quartier, écoute, je crois que je ne m'en souviens pas. Moi, je suis arrivée en 62. Tu crois qu'il y avait des fêtes au quartier ?
Oui, parce qu'il y en a.
Il y en a eu. Il y en a eu.
Il y en a eu.
Oui.
Ils sont partis. Je ne m'en souviens pas. Hein.
Ça s'est arrêté parce que.
C'est les forains qui.
C'est les forains qui ne veulent plus venir.
Oui.
Nous, on essaye, quand il y a, par exemple, l'été, là, avec les enfants. Quand il y a la fête sur le quartier, on essaye à Azur de
justement
de faire venir des manèges, de faire venir des choses sur le terrain de l'école. C'est-à-dire
à Saint-Michel, il y avait des manèges.
Sur ce terrain-là, on fait venir des manèges tous les ans.
Mais ça, c'est pas la fête.
Plus ça va et plus on en a. Et les enfants, bien sûr, ils sont heureux, ils sont contents.
Parler de la fête.
Mais c'était la fête pour les enfants. C'était la fête à Saint-Michel, il y avait des manèges, on allait pour les enfants, pour qu'ils achètent toutes les petites gourmandises que les manèges proposaient, que les gens proposaient, mais je n'appelle pas une fête d'adultes ou une fête de quartier, voilà. C'était les manèges.
Dans la fête de Saint-Michel,
oui.
Les forains qui vendaient bien entendu des friandises, il y avait quelque chose de très agréable. C'était déjà de sentir à distance les marrons glacés, les marrons qu'on faisait griller sur du charbon. Et ce parfum vous donnait un appétit. De suite, on allait chercher un cornet de marrons. Et on dégustait ça tout en marchant, en discutant avec les amis, la famille, etc. Quoi.
Et peut-être que les gens dansaient le soir, mais on ne sortait pas à cette époque beaucoup.
Disons que la fête à Saint-Michel, depuis
qu'elle a fêté... À cette époque, les mamans ne sortaient pas, ils sortaient que... Enfin, personnellement, moi, c'était que sortir les enfants, l'après-midi.
Quel commerce trouvait-on dans le quartier ?
Quel commerce ? Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup.
Non, il y avait...
Il y avait la pharmacie.
Le petit casino.
Voilà.
Il y avait un serrurier cordonnier. Il y avait...
Un marchand de chaussures.
Oui, un marchand de chaussures.
Un magasin de sport.
Un magasin de sport, oui.
Aimé.
Il y avait Aimé aussi, oui, le magasin Aimé.
Ah oui, le charcutier, boucher.
Ah non, c'est pas Aimé.
Non, sur la place. Sur la place commerciale.
Sur la place commerciale.
Après, il y avait le bureau de tabac. Il y avait le pharmacien.
Oui.
À côté du pharmacien, il y avait le boucher chevalin, boucher normal.
Oui.
Comme je dis, quand j'ai dit normal, les gens n'apprécient pas. Je me suis accrochée avec une femme de la mairie. Parce que j'ai dit, je respecte toutes les façons de manger des personnes. Mais qu'on nous respecte aussi, voilà. Je suis pour tout le monde, moi. Alors quand je dis que je veux un morceau de viande comme ça et pas comme ça, c'est mon problème. Quand vous, ceux qui sont arabes, je le conçois, il y a plus de magasins arabes maintenant sur un palo que de magasins français. Donc nous, on a eu, et quand il y a un magasin arabe qui s'est installé, on n'a pas dit, on n'en veut pas, chacun a le droit de manger ce qu'il veut, c'est normal. Mais que l'on enlève tous les autres magasins pour ne laisser que certains magasins, j'ai dit, je suis désolée. J'ai dit, moi, quand j'organise des repas à Ampalo, j'achète pour que tout le monde puisse manger. Donc si je vais acheter la viande, on va aller l'acheter à Arabe, à Halal, machin, Mais je ne fais pas de différence. Après, moi, chez moi, je mange ce que je veux. Je pense que c'est normal. Chacun a sa vie. Chacun. Moi, j'adore manger toutes les cuisines. Chinoise, arabe,
machin. Sinon, moi, j'aime pas. J'ai peur.
La seule chose que je leur reproche à tous, c'est que ça fait grossir. Voilà. Après, non, chacun
pas,
sa vie.
C'est pas qu'on les a enlevés des magasins. C'est qu'ils gagnent pas assez. Le boucher chrétien ne gagne pas assez. Puisque la population arabe est plus nombreuse. Donc oui, elle n'allait pas rentrer dans un magasin où il y a du porc.
Quand on vous met une poissonnerie et qu'elle est brûlée 4 jours, un mois après, vous trouvez ça normal? Tout le monde mange du poisson et la poissonnerie n'est jamais revenue.
Ah oui, la poissonnerie parce qu'il ne gagnait pas assez.
Il n'avait même pas eu le temps de commencer.
Non,
il ne gagnait pas assez.
Vous
savez, quand même, ça fait 50 ans que je suis sur le quartier, ça fait 50 ans que je suis avec les commerçants. Je les vois tous les jours. Ben, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas... Enfin, ce n'est pas une question de gagner ou pas gagner. C'est une question de respect de chacun. Si vous, vous voulez manger du poisson tous les jours, vous n'êtes pas obligé... Si vous avez un poissonnier là, vous n'êtes pas obligé d'aller...
Monsieur Pierre, avez-vous pensé à quitter Empalo un jour ?
Non, ça ne m'est jamais arrivé de penser de quitter Empalo pour la simple raison... C'est que je me plais beaucoup en Palo. Je compte même arriver jusqu'au bout de ma vie et toujours vivre en Palo.
T'as tes amis en Palo.
Et Liliane ?
Oui.
Vous avez déjà pensé à quitter en Palo ?
Pas du tout. Pas du tout.
Gilbert ?
Moi, oui. Moi, j'aime en Palo. D'abord, pour la circulation. Je suis âgée. J'ai des bus juste à côté de moi. Pour le commerce, ça me suffit, les commerces qu'il y a. Du moment qu'il y a un magasin où on peut trouver de tout, comme il n'y a pas assez de choses, justement. Et puis, les commerces sont diversifiés. Il y a des légumiers, il y a la viande halal, il y a discount. Oui, moi, j'aime bien Palo parce que je suis âgée et je n'ai pas besoin de me d'aller loin pour trouver mon équilibre et mon confort. La seule chose qu'on déplore en Palo, nous, les Européens, qui sommes un petit nombre, que les Arabes ne nous fréquentent pas. Ce n'est pas nous qu'on ne les fréquente pas. C'est eux qui ont pris cette habitude de se fréquenter qu'entre eux. Alors que quand on est âgé, on aimerait bien le soir aller à la télévision avec une voix chez une voisine. Mais maintenant, même les chrétiens entre eux ne se fréquentent pas. Moi, je suis isolée. J'aimerais bien le soir après souper, je porte un petit gâteau, une fois moi, une fois elle. On mange un petit gâteau à deux. Mais non, on ne nous fréquente pas, on s'éloigne de nous. Okay. C'est l'isolement pour la personne âgée, c'est de voisinage, c'est l'isolement.
Ah, avant, c'était le bon temps, non ?
Ah oui, c'était le bon temps, la vie était plus facile aussi.
Ouais.
Il y avait moins de difficultés. Et puis, il n'y avait pas ce chômage.
Le soir aussi.
Parce que ce qui nous détruit vraiment, c'est ce chômage. C'est épouvantable, ça. C'est un fléau.
Bon, ben, merci pour cette interview.
Interview.
Merci.
Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle. En l'embrassant, avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage, non, non. Quand de lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. rose à la marelle, cerisier rose et pommier blanc. J'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour, les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc.